notre Bible. Vous voulez lever? Se secourir un petit peu, faire peur au diable. Vous vous rappelez ce que John Morris a dit? Bible propre, chrétien sale. Bible sale, chrétien propre. Dis ceci avec moi. Voici ma Bible. Je suis ce que la parole de Dieu dit à mon sujet. Je possède tout ce qu'elle affirme. Je peux tout ce qu'elle déclare. Je suis prêt à recevoir l'incorruptible, l'indestructible semence de la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Donc, je vais commencer aujourd'hui une série donc sur le salut de votre famille. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Qui veut voir leur famille sauvée? Oui? Hallelujah. Et vous allez voir donc toute l'étendue. Donc, j'ai mis une famille un petit peu différente. Parce que je pense qu'on a toujours aimé, on appelle ça quoi ici? Pierre à feu. En anglais, c'est Flintstones. Oui, vous vous rappelez le Flintstones? On a beaucoup aimé cette série quand nous étions petits. Pourquoi? Parce qu'ils nous ressemblaient tellement, n'est-ce pas? Et chacun de nous avons une famille avec tous les différents caractères, toutes les différentes personnalités. Et on a trouvé ça drôle. Si vous avez votre Bible, tournez avec moi en Hébreux, chapitre 11 et verset 11. J'ai enseigné sur le salut de la famille à plusieurs reprises et dernièrement, comme souvent est le cas, j'étais en train de courir et le Seigneur m'a donné ce message très très clairement dans mon esprit et il m'a dit de commencer avec ce verset en Hébreux 11, verset 11. C'est un verset qui m'a travaillé et ce que je vous invite à faire, si vous dites, mais ce n'est pas mon problème, oui, ce n'est pas là où j'ai besoin parce que ma famille est tous au Seigneur. Peut-être qu'il y a une autre situation, une circonstance dans votre vie où vous avez besoin de croire une promesse de Dieu et voir quelque chose se résoudre. Ça va aussi bien marcher dans n'importe quel domaine. La foi, oui, fonctionne dans n'importe quel domaine où nous l'appliquons. Vous m'avez entendu? Écoutez bien ce verset. En parlant des héros de la foi, nous avons ce verset dans 11 qui parle de Sarah. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Elle enfanta. On va pas entrer dans toute l'histoire de cela. Vous pouvez le relire dans la Genèse. Mais écoute la suite. Il dit parce que, tout le monde dit parce que. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse, et je veux que vous souligniez ça dans votre Bible, ou cette semaine vous marquez ça quelque part sur une feuille et vous l'accrochez quelque part, et on va poser cette question, oui, est-ce que vous croyez à la fidélité de celui qui a fait la promesse? Elle crut à la fidélité de Dieu. Est-ce que vous croyez à la fidélité de Dieu? J'ai entendu la moitié des gens. Parce que trop souvent, nous sommes en train d'analyser, de raisonner et dire comment est-ce que Dieu peut accomplir cette promesse et on se bloque avec l'accomplissement, comment il va le faire, au lieu de croire tout simplement à la fidélité de Dieu. Est-ce qu'il est fidèle? De tout ce qu'on lit dans la Bible, oui, tout ce que Dieu a promis, il le fait. Il a toujours fait. Et il va toujours faire. Amen. Donc, notre question, est-ce qu'il est capable? Je pense que c'est les deux questions qu'on pose. Est-ce que nous croyons à la fidélité de Dieu? Est-ce que Dieu en est capable d'accomplir sa promesse? Est-ce que vous pouvez me répondre? Est-ce que Dieu est capable? Peu importe la promesse que Dieu fait, il est capable d'accomplir. Amen. Mais peut-être vous avez fait l'erreur que j'ai fait. Et l'erreur que j'ai vue, entendu beaucoup de chrétiens faire. Nous commençons à dicter à Dieu comment il va accomplir sa promesse. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Et Seigneur, je veux que tu envoies telle personne, et Seigneur, je veux que tu fasses ceci, et je veux que tu fasses cela. Et moi, je dis, un instant, c'est qui Seigneur là? Parce que si vous êtes en train de donner des ordres à Dieu, c'est toi qui te prends pour le Seigneur. Allô? Oui, et peut-être ça va vous couper le souffle pour un instant, mais si vous pouvez reprendre et voir que c'est Dieu qui a fait des promesses extraordinaires dans sa Bible, mais ce n'est pas à nous de lui dicter comment il va les accomplir. C'est à nous de croire. Tout le monde dit croire. Croire. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui a fait la promesse, oui. Donc, il est capable. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Et je dis toujours après, je crois. Amen. Il est capable. Rien n'est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Et je dis, je crois. Peu importe la promesse, je dis, je crois. Je veux que nous travaillions, oui, cette croyance, cette foi en celui qui a fait la promesse. S'il est Dieu, il peut le faire. S'il a dit, il veut le faire. Allô? Je sais que quelquefois je suis trop simpliste pour certaines personnes et il veut quelque chose, il cherche quelque chose de compliqué. Oui? L'évangile est toujours simple. Je me répète, l'évangile est toujours simple. Méfiez-vous-même des gens qui commencent à compliquer les choses, parce que ce n'est plus l'évangile. Si c'était compliqué, si on avait besoin d'être des grands intellos, oui, oui, Dieu sera injuste, parce qu'il y a des gens très simples dans ce monde, et Dieu a dit que ce salut appartient à tout le monde, est pourvu pour tout le monde. Et moi, je remercie Dieu, je suis un homme simple. Oui. Donc, dis avec moi, il est capable. Rien n'est impossible avec Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Et je crois. On va regarder quelques versets. Vous voulez tourner avec moi en Jérémie. Jérémie chapitre 1, verset 12. On va arriver sur la promesse en particulier que je vois aujourd'hui, sur la famille. Mais je veux que vous commencez à croire à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Amen. Je ne veux pas qu'on se bloque avec la promesse en disant, mais comment? Mais qu'on dit, Dieu l'a dit. Jérémie comprend quelque chose. Et l'Éternel me dit, Jérémie 1, 12, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Certaines traductions disent pour l'accomplir. Il veille sur quoi? Sa parole. Donc, quand nous présentons la parole de Dieu, il dit, Seigneur, tu as dit, le Seigneur dit, oui, c'est moi qui l'ai dit, et il veille sur cela. Amen? Alléluia? Ça, c'est une bonne verset à connaître. Tournez maintenant avec moi en Isaïe, chapitre 55, et verset 10. Alléluia, je sais pas, mais ce verset je veux toujours crier quand je lis ce verset. C'est tellement fort. C'est tellement puissant. Si vous pouvez attraper ça. Seigneur, je demande que tu donnes à chacun de nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Ouvre les yeux de nos cœurs qu'on puisse saisir ce verset ce matin. Il dit, verset 10, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retombent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, c'est Dieu qui parle, qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir, pardon, exécuté, on retrouve ce mot, ma volonté. Quelques-uns disent, quelle est la volonté de Dieu? Voilà la volonté de Dieu. C'est trop simple. Moi, j'ai vu des gens prier des heures et des heures pour connaître la volonté de Dieu. Ils ne sont jamais ouverts leur Bible. Ouvre la Bible, vous trouverez la volonté de Dieu. Il a donné sa parole. La Bible est la parole de Dieu. Amen. Et c'est la volonté de Dieu. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Écoutez, mes amis, vous n'avez pas encore saisi cela. Moi, je cherche les réactions chez vous. Je regarde dans vos yeux. Paul voyait dans les yeux d'un homme qu'il avait la foi pour être guéri. Il lui a dit, lève-toi sur tes pieds. Et il se leva et il n'avait jamais marché de toute sa vie. Amen. Moi, je veux voir la foi en vous. Dieu est en train de dire, je me tiens derrière ma parole. Je n'ai jamais donné une parole. Je n'ai jamais donné une promesse. Je n'ai jamais fait une déclaration que je n'ai pas attendu, exécuté, accompli. Si tu peux le croire, ça va devenir une réalité, ouais, que vous puissiez voir, toucher, manger dans votre vie. Quelqu'un dit alléluia. Vous saisissez cela? Il se tient derrière sa parole. J'ai l'impression que je prêche mieux que vous répondez. Jamais il a envoyé une parole, oui, pour que ça ne prenne pas un effet, que n'accomplisse pas quelque chose, que ne produise pas quelque chose. Et nous devons lire nos Bibles tous les jours en disant, où sont les promesses? Où sont les semences? Je vais prendre ces semences, ces promesses de la parole aujourd'hui, je vais les mettre dans mon cœur, je les enfonce dans mon cœur, je vais les déclarer dans ma bouche, je vais les croire, je vais les déclarer à haute voix, et ces choses que Dieu a dit va devenir, oui, réalité et en manifestation dans ma vie. Hallelujah. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Vous avez remarqué cela? Que ce livre qui était terminé il y a presque 2000 ans passés, vous le lisez et vous dites, ah, ça me parle dans ma situation aujourd'hui. Vous n'avez pas remarqué ça? Il n'y a aucun autre livre qui arrive aux chevilles de la parole de Dieu parce qu'elle parle pour nous aujourd'hui dans nos circonstances actuelles, n'est-ce pas? Hallelujah. C'est Dieu qui parle. Quand je lis ma Bible, Dieu me parle. J'entends les gens dire tout le temps, comment c'est possible, John, tu dis tout le temps, Dieu m'a dit ceci et Dieu m'a dit ça. J'ai appris à entendre la voix de Dieu en lisant ma Bible. Et je lis ma Bible tous les jours depuis des années et je continue à lire. Tu n'as pas terminé? Oui. Ouais. J'ai terminé plusieurs fois et je recommençais tout de suite. Et je continue à lire et je continue à lire. Pourquoi? Parce que je grandis chaque année. Et je relis quelques passages peut-être que j'ai lu 10 fois, 100 fois même. Et tout d'un coup, Dieu me montre quelque chose d'autre, sa volonté pour moi. Et je m'accroche à ça. Je dis, Seigneur, j'ai pas vu ça jusqu'ici, mais je le vois maintenant et je crois maintenant. Et vous savez, ces choses commencent à se passer dans ma vie. La parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Ça coupe en entrant et ça coupe en sortant. Et ça va sortir les choses de votre vie qui vous empêchent de vivre le bonheur de Dieu. Rappelons-nous, n'oublions jamais, Jésus est venu pour nous donner la vie. Et la vie même en abondance. C'est la volonté de Dieu pour vous. C'est la volonté de Dieu pour chaque être sur ce planète. Et on nous dit, pour demain, c'est ça. On dit par la fin de ce mois, nous allons être 7 milliards de personnes sur la planète Terre. 7 milliards. Et vous savez, Dieu aime chacun de ces hommes, chacun de ces femmes. Et il désire qu'ils aient dans l'abondance. Et ça commence où? Ça commence avec moi qui crois, avec vous qui croyez. Amen? On ne peut pas aider les autres si nous ne marchons pas avec Dieu nous-mêmes, si nous ne connaissons pas Dieu pour nous-mêmes. La parole est vivante, efficace, oui. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et molle, et juge les sentiments et les pensées de cœur. Est-ce que vous croyez à la fidélité de celui qui a fait la promesse? Prenons des décisions aujourd'hui. Je vais croire à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Peu importe quelle promesse je trouve dans la parole de Dieu, je vais croire cette promesse parce que Dieu l'a dit et il se tient derrière. Actes chapitre 16, 31. Est-ce que vous aimez votre famille? Est-ce que vous savez que personne va prier et va avoir à cœur votre famille comme vous? Est-ce que vous savez que vous avez l'autorité dans votre famille que personne autre détient? Moi, en tant que pasteur, je n'ai pas autant d'autorité dans votre famille que vous avez. Vous, en tant que chrétien, avez de l'autorité dans votre famille que moi, je n'ai pas. Vous comprenez cela? Voilà un verset. Et peut-être vous avez souffert dans votre famille. Peut-être vous ne savez pas aujourd'hui où est votre famille. Mais vous savez quelque chose? Quelque part en vous, vous avez un amour et un désir de voir votre famille bénie. Amen. Et je pense que vous avez plus que cela. Je crois que vous avez un désir de les voir tous arriver au ciel. Mais si nous avons commencé vraiment de constater, de goûter combien le Seigneur est bon, nous savons que le ciel ne commence pas le jour de notre décès, de notre départ d'ici. Le ciel commence le jour de notre nouvelle naissance, n'est-ce pas? Nous avons commencé, moi j'ai commencé la vie du ciel. Et vous? Amen. J'ai commencé de vivre avec Dieu et je veux ça pour ma famille. Je témoigne un petit peu. Ma tante était missionnaire en Afrique du Sud. J'ignorais ce que ça voulait dire. Elle a prié pour sa famille. Elle était le seul de 5 enfants d'une famille d'origine juive, oui, qui a rencontré le Seigneur. Et il est parti en Afrique du Sud pour évangéliser les Juifs et pour enseigner dans les écoles bibliques l'hébreu et les autres langues araméiques. Elle priait pour sa famille. Et tous les jours, elle priait, Seigneur, sauve ma famille, trois frères, une sœur. La sœur, c'est ma maman. Et rien ne s'est passé pendant 30 années. Jusqu'au jour où le Seigneur dit, lui a parlé, il dit, tu ne crois pas que je n'ai pas entendu tes prières? Elle dit, mais Seigneur, j'ai continué à demander, et tu as entendu dès le premier jour. Elle a dit, je vais remercier le Seigneur pour le salut de ma famille. Elle a commencé de remercier le Seigneur, et ma sœur aînée, Valerie, Val pour ceux qui le connaissent, a décidé avec une copine de l'école qu'elle voulait se faire confirmer. Donc elle est allée à l'église anglicane, elle s'est fait confirmer avec ses copines, et elle a trouvé un groupe de jeunes chrétiens, elle est née de nouveau dans ce groupe de jeunes chrétiens. Elle a amené ma sœur, qui m'ont amené, je raccourcis l'histoire parce que sinon on peut passer les heures, hein. J'ai eu la joie de prier pour mon petit frère, au moins à l'époque il était petit, hein, que vous connaissez maintenant comme Peter, hein, et je l'ai emmené au Seigneur. Et après on a attendu 6 années. Mon père ne voulait rien entendre de Dieu. Si on parlait de Dieu, il se levait, il quittait la pièce. Il nous permettait d'aller à l'église, mais règle très stricte dans notre famille, je ne sais pas comment c'était chez vous, mais si on n'était pas rentré à 10 heures, on n'avait pas le droit d'aller. Et on devait toujours rentrer à nos propres moyens. Après 6 années, ouais, le Seigneur a touché son cœur au mariage de Val. Et il est allé trouver mon pasteur derrière mon dos, sans ma permission, pour demander s'il pouvait faire des études bibliques. Et pendant une année, il a fait des études bibliques. Et au mariage de ma deuxième sœur, Cathy, oui, au lieu de donner son speech, comme on fait en Angleterre, il a donné son témoignage. Il avait accepté le Seigneur. 6 mois plus tard, Laure et moi, nous étions fiancés. Et ma mère, première fois que je l'ai vue, elle était agressive contre nous. Oui, quelque chose le dérangeait. Le fait qu'on avait reçu un appel pour la France, Laure ne parlait pas un mot de français. Elle savait que mon français était pitoyable. Je peux vous montrer mes notes. Et elle nous a agressés et le Seigneur l'a repris. Le Seigneur l'a repris, elle lisait sa Bible. J'ignorais qu'elle lisait sa Bible. Tous les soirs, elle lisait sa Bible en allemand. Et elle a trouvé un verset qui dit, « Si tu causes un de ces petits de tomber, il sera mieux que tu mettes un meule de moulin autour de votre cou et tu te jettes dans la mer. » Et sur ce verset, ma mère s'est convertie. Et pendant les derniers 17 ans de sa vie, elle avait 55 ans, d'accord? Derniers 17 ans de sa vie, elle a servi le Seigneur avec passion. Je ne me trompe pas, 17 ans. 22 ans de sa vie. Donc, j'ai vu toute ma famille sauvée. Le père de Laura, catholique pratiquant, est parti à une rencontre d'hommes dans l'église catholique où les gens parlaient d'un rapport intime avec Dieu. Il avait élevé toute sa famille dans la religion stricte, mais aucun d'eux connaissait Dieu personnellement. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Dans son rencontre, ils ont parlé d'une amitié de Dieu et il a donné son cœur au Seigneur, rentré à la maison transformé. Personne ne comprenait. Il a envoyé sa femme Pat, la belle-mère, et Laura. Ouais, elle avait 17 ans. À cette même rencontre, 6 mois plus tard, ils ont donné leur cœur au Seigneur. Laura a eu la joie d'emmener ses 3 sœurs au Seigneur. Les 3 frères ont accepté le Seigneur. Nous avons vu toute notre famille intime se donner au Seigneur. Amen. Et ça continue avec les oncles, les tantes. Je termine l'histoire sans aller dans tous les détails. Octobre l'année dernière, on savait que mon oncle était à 2 doigts de la mort. Nous avons essayé depuis notre lune de miel de lui parler de Jésus. Il nous a renvoyé. Sa femme, ma tante, a accepté le Seigneur. 3 de ses enfants, 2 de mes cousines, mon cousin, ont accepté le Seigneur et ils ne voulaient rien entendre, même qu'il était en train de mourir du cancer. On a demandé, je me rappelle une des dernières fois, on dit, est-ce qu'on ne peut pas prier pour vous? Il a levé les mains et dit, non, vous savez que je ne crois pas en cela. Et on est parti, et le jour qu'on m'a annoncé qu'il était décédé, j'ai pleuré et je dis, voilà un homme qui est parti en enfer. Sauf qu'on ne connaisse pas tous l'histoire, n'est-ce pas? Et le jour avant, sa fille aînée, qui est ma cousine, En Israël, avait prévu un billet pour le lundi, et le Seigneur lui a dit, tu pars pas lundi, tu pars aujourd'hui. Il est allé à l'aéroport, changé son billet, il est arrivé un jour en avant. Et ma autre cousine ont passé les dernières 3 heures avec mon oncle, ont prié avec lui, et il a accepté le Seigneur. Donc, dans les dernières 3 heures de sa vie, et il est au ciel. Je peux vous raconter des histoires de la famille. Nous avons vécu des choses comme vous. On ne parle pas souvent, mais le frère de Laura, pendant notre première et deuxième année à l'école biblique, on est monté, on a fait les 1600 kilomètres. C'est un petit pays, les États-Unis. Si vous avez essayé de le visiter, c'est immense, d'accord? Seulement un petit trajet sur le plan comme ça, 1600 kilomètres. Et on nous racontait le soir même comment John, je pense le plus beau, le plus talentueux de toute la famille, n'est-ce pas? Qu'il avait accepté le Seigneur 3 semaines avant et on se réjouissait avec la famille, je crois qu'il était le dernier d'être sauvé. Oui, dernier d'accepter le Seigneur. Et ce soir-là, il n'est pas rentré. On a entendu le matin à 5 heures des cris. Elle leur a dit, quelqu'un est mort. Papa a dû mourir, il y avait un problème de cœur. Et on est monté avec un policier là. Et John avait prêté son casque à son copain. Il a fait un virage, il a tapé un poteau, il est monté 10 mètres dans l'air. Il est descendu sur la nuque, mort instantané. Combien on a pleuré. Combien on a voulu ressusciter John de la mort. Et il n'y avait pas les dons nécessaires en nous pour faire cela. Donc on a enterré. On a dit au Satan, tu vas payer pour cela. Tu vas regretter ce que tu as fait. Mais il est au ciel. Je dis ça parce que certains d'entre vous, vous avez perdu les gens aussi. Et les gens viennent vers nous et vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? C'est nous vivons tous dans le même monde, n'est-ce pas? Et on a tous vécu des choses difficiles, pénibles. Quelquefois des choses qui nous ont pris ici pendant 10 ans, on ne parlait pas de sa mort parce que ça nous faisait tellement mal. Tellement mal. On arrive à la promesse. Vous êtes prêts? Acte 16, verset 31. Je dis cela pour vous, parce que je sais que vous tenez à cœur votre famille et vous voulez voir sauver. Et nous avons cru ces promesses et nous avons vu des résultats. Et je sais que si vous êtes prêts à croire à la fidélité de celui qui a fait la promesse, Clarence, le deuxième après Laura, il a accepté le Seigneur pendant qu'il était dans le militaire au Japon. Dieu peut faire ce qu'il veut, quand il veut, si nous croyons. Il va faire ce qu'il a promis dans sa parole. Acte 16, 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le geôlier qui les a jetés en prison, qui a vécu ce tremblement de terre, personne n'a été tué. Oui, il était prêt à se tuer et Paul dit, ne vous tuez pas, nous sommes tous ici, je vous donne le soin de lire ce chapitre. Et il dit, Seigneur, que devons-nous faire? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et Paul et Silas lui dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tout le monde dit, moi et ma famille. Êtes-vous sauvé aujourd'hui? Parce que certains disent, comment est-ce qu'on peut savoir? C'est très simple. Oui, c'est si vous avez invité Jésus d'entrer dans votre vie, devenir votre Seigneur et Sauveur, vous êtes sauvé. Amen. Ça veut dire quoi? C'est que vous avez une place réservée pour vous au ciel. Ça veut dire que Dieu veut transformer, changer toute votre vie. Il veut vous apporter la délivrance, la guérison. Il veut être votre protection. Il veut être votre provision. Et il ne désire pas ça seulement pour vous. Il désire ça pour vous. Vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, vos frères, vos sœurs, vos oncles, vos tantes, vos cousins, vos cousines. Quelqu'un dit Alléluia. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Il aurait pu rester là. Mais Dieu est un Père qui aime la famille. Je pense que c'est un des messages les plus forts de toute la Bible. C'est un message de famille, n'est-ce pas? Et je sais que certains vivent ici, vous vivez seul, mais vous avez une famille. C'est ça l'église locale. Nous sommes une famille. Mais si vous restez à l'écart, on va jamais vous connaître, on va jamais vous apprécier et vous allez jamais connaître tout l'amour et l'aide qui vous est nécessaire. On a besoin de se joindre à la famille. Amen. Mais Dieu veut sauver votre famille. Quelqu'un dit Alléluia. Donc vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez regarder les impossibilités. Vous pouvez essayer de raisonner comment est-ce que Dieu va faire ça. Vous pouvez dire, je ne crois pas à cette promesse. Vous pouvez dire, Dieu l'a dit. Je décide de croire à sa fidélité. Je pense que c'est vraiment important pour nous d'enlever nos yeux de la situation, des circonstances, des personnalités, parce que nous avons beaucoup prié avec les gens. Les gens prient avec nous, prient avec moi, pasteur, pour le salut de mon frère, prient avec moi pour le salut de ma mère. Je dis, on prie avec eux, et il dit, mais jamais ils vont entendre, jamais ils vont vouloir. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait en train de prier comme ça? Il faut que je croie avant de prier, il faut que je croie pendant que je prie, et il faut surtout prier après, croire après que j'ai terminé de prier. Amen. C'est pourquoi ne priez pas trop vite. Je vois les gens qui prient en disant, peut-être Dieu va faire quelque chose si je prie. Non. Dieu va faire quelque chose si vous saisissez une promesse de Dieu et vous dites, je vais prier selon la parole de Dieu et ce que Dieu a dit, il va le faire. Pas je vais lui dicter comment faire. Parce que j'ai remarqué, ça fait 37 années maintenant depuis que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Oui. Et j'ai vu que souvent, il fait totalement le contraire de la façon que j'ai pensé dans ma tête qu'il devait faire. Est-ce que quelqu'un a remarqué cela? Oui, parce qu'il veut toujours nous montrer qu'il est Dieu. Mais ce que j'ai remarqué aussi, il fait toujours ce qu'il a promis quand nous croyons. Et souvent dans ma passé, je n'ajoutais pas ma foi à ma prière. Je dis, j'ai prié, si Dieu le veut, il va le faire. Non, 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 s'il a dit, il le veut. Hello? Cherchons un petit peu loin, plus loin dans notre Bible, si nous ne sommes pas d'accord. Est-ce que je peux vous donner encore deux versets? J'ai encore beaucoup de choses à dire, c'est pourquoi on va reprendre cela. Est-ce que je peux vous donner un devoir? Donc, en 3 semaines, je vais faire la deuxième partie, comment voir votre famille sauvée. Et je veux que vous cherchiez, dans votre tête, dans votre Bible, d'accord, les gens dans la Bible qui ont vu leur famille sauvée. Vous comprenez? D'accord? C'est votre devoir. Je sais, l'école est finie, pour certains, la faculté est finie depuis longtemps aussi. Mais un petit devoir, d'accord? Vous cherchez dans votre Bible qui a vu sa famille sauvée, parce que le geôlier, ici en Actes 16, il a vu sa famille sauvée. Ils étaient tous baptisés ce même jour. Donc, encore 2 versets. Josué 24, 15. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je crois à la fidélité de celui qui a fait la promesse, d'accord? Je compte pas sur moi, je compte sur Dieu. Et le dernier verset, voilà le verset sur lequel je me suis appuyé pour le salut de mon père. Parce que ma mère était... Merci John, excuse-moi, je... Maintenant, je peux prêcher encore 1 heure. C'est bon. Je plaisante. Je termine là. Je me suis appuyé sur ce chapitre en Matthieu 5, versets 14 et 15 pour le salut de mon père. Pourquoi mon père et pas ma mère? Parce que ma mère était toujours ouverte à discuter. Et j'ai eu des longues discussions. Ma mère avait des problèmes de varices. Et donc, le docteur lui a dit qu'il fallait marcher toutes les soirs. Donc, quand j'étais à la maison, on marchait et on discutait, on parlait. Elle parlait toujours à propos de Dieu. Et moi, je parlais d'un rapport intime avec Dieu. Mais mon père, comme je dis, il refusait, ouais, de venir à quoi que ce soit. Ma mère est venue à mon baptême, tu vois, les choses comme ça. Mais mon père, rien de tout. Ouais. Et j'ai trouvé ce verset. Peut-être vous l'avez trouvé. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Souvent, quand on dit qui est la lumière du monde, tout le monde dit Jésus. Mais Jésus dit, non, non, vous êtes la lumière du monde. Pourquoi? Parce que Jésus est venu habiter en nous. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous avez vu le soir les villes dans l'arrière-pays? Quand on est sur l'autoroute et on voit ces villages, ils ne peuvent pas être cachés, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont allumés. Oui? Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boiseau. Mais on la met sur le chandelier et voilà, regarde. Voilà, vous avez besoin de quelque chose auquel accrocher. Il dit, et elle éclaire combien? Tous ceux qui sont dans la maison. Ma maison, c'est ma famille. Vous êtes d'accord? Est-ce que Dieu a fait quelque chose de vrai en vous? J'entends 2 personnes. Une personne qui dit amen, un dit oui. Et vous? Est-ce qu'il a fait quelque chose de vrai en vous? Vous l'avez invité dans votre cœur, il est entré? Parce qu'il a promis d'entrer si on l'invite. Est-ce que tu vois un changement? Est-ce que tu penses différemment? Est-ce que vous parlez différemment? Oh là là, je jouerai comme un chartier. On dit ça en français, n'est-ce pas? En anglais, on dit comme un marin. Ouais. Et du jour au lendemain, Dieu a fait un miracle dans ma bouche. Je parle différemment. Et après, il m'a dit, mais tu as beaucoup trop de soucis dans tes paroles. Et il a rechangé mes paroles, et encore. Il continue à le faire. Mais il a fait quelque chose de vrai en moi. Quelqu'un qui me connaissait avant que j'étais sauvé, et après avoir accepté, je dis, aurait dit, oui, tous les professeurs de Laura, oui, l'a convoqué, même le directeur de lycée a convoqué Laura pour dire, qu'est-ce qui vous est arrivé? Oui, tous les amis ont cru qu'elle a trouvé une nouvelle drogue. Tous ses amis étaient des vendeurs de drogue et compagnie. Hein? Laura était une grande méchante hein, avant de rencontrer le Seigneur. C'est difficile à le croire. Lève-toi, princesse. Regarde combien elle est belle. Jamais, jamais on pourrait croire ça. Est-ce que vous savez, mais à 18 ans, donc elle a accepté le Seigneur à 17 ans, à 18 ans, elle a gagné donc première place dans l'état de Minnesota en judo. Oui, première place dans les trois états. Et aux Jeux Olympiques juniors aux États-Unis, elle a pris le troisième place dans toutes les États-Unis en judo. Et presque tous les gars que j'ai rencontrés une fois que nous étions mariés, la première fois que j'ai rencontré Laura, elle m'a jeté par terre. Et je parle pas des petits gars, tu vois, les grands. Ouais, elle avait une grande joie à jeter les gens, taper les gens. Hein. Je l'ai rencontrée, elle était déjà bien sauvée. Déjà Dieu a fait un bon travail, elle était très gentille avec moi. Et c'est pourquoi je dis oui, madame. Si vous n'êtes pas poli avec votre femme, monsieur, n'attendez pas que vos enfants le respectent. Parce que vos enfants n'écoutent pas ce que vous dites, ouais, sauf que vous êtes en train de le faire. Il faut faire ce que vous voulez que les enfants fassent. Amen. Je suis parti là, je reviens. Ah oui, donc tout le monde a convoqué Laura, voulait savoir ce qui se passait dans sa vie. Elle dit, je suis tombée amoureuse de Jésus parce qu'elle ne savait pas comment dire. Aujourd'hui, elle sait le dire. Amen. Est-ce que vous êtes tombé amoureux de Jésus? Est-ce qu'il est entré dans votre vie? Est-ce qu'il a allumé une lumière chez vous? Quelqu'un dit Alléluia! Woo! Donc, toute la maison le voit. Peut-être il ne veut pas l'accepter pour le moment. Peut-être ils ont dit, ah, c'est encore un truc. Peut-être vous avez essayé plein de choses avant. Moi, j'ai rencontré les gens qui ont essayé toutes les religions, toutes les sectes, tu vois, avant de trouver Jésus. Oh là là, j'ai passé des années et des années. Oui? Décidez que cette lumière ouais, qui est en vous ouais, touche votre famille, éclaire toute la maison. Est-ce que je peux vous demander de vous lever? Hallelujah! Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen! Est-ce qu'on peut faire cette déclaration de foi? Parce que une chose qu'il faut que vous sachiez, on va revenir là-dessus, mais aucun de membres de votre famille va être au ciel parce que vous croyez qu'ils sont sauvés. Ils vont arriver au ciel parce que eux, ils vont inviter Jésus dans leur vie. Amen. Nous n'imaginons pas que les gens seront sauvés. Nous croyons, amen, nous louons le Seigneur pour ça, mais eux, ils ont besoin d'accepter Jésus. Que ce soit clair, d'accord? Oui? Parce que quelqu'un va dire, oh, moi, j'ai besoin de rien faire. La Bible dit que, donc, non, non, non. Ils ont besoin d'accepter Jésus. Et il se peut que Dieu vous demande de faire des choses. D'aller les rendre visite, leur écrire une lettre, leur envoyer des livres, je sais pas. Amen. Peut-être prier, comme nous allons apprendre en 3 semaines. Oui. Que Dieu envoie des personnes dans leur vie. Mais ils ont besoin, chaque personne. Oui, merci Seigneur. Dieu n'a pas des petits enfants. Chacun de nous avons besoin d'accepter Jésus pour nous-mêmes. Parce que Dieu veut une relation personnelle avec moi, avec toi, avec mes frères et sœurs, avec mes cousins, mes cousines et leurs enfants. Ça peut aller très loin. Donc faites cette déclaration avec moi. Je crois que Jésus est mort à ma place. Je crois qu'il a payé pour mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité le troisième jour. Je fais de Jésus mon Seigneur et Sauveur personnel. Je suis maintenant enfant de Dieu et j'ai la vie éternelle. Je crois et je suis sauvé. Je crois que toute ma famille est sauvée. Amen. Prenons quelques moments pour prier pour les membres de votre famille. Il se peut que pendant que j'ai prêché, vous avez pensé à quelqu'un en particulier dans votre famille. Peut-être c'est le moment. Moi, je trouve que si vous écoutez le Saint-Esprit, si vous écoutez Dieu à l'intérieur de vous, il va vous parler de prier pour certaines personnes en particulier. Chaque jour, il va vous mettre quelqu'un à cœur. Et cette même personne peut revenir à plusieurs jours, plusieurs semaines à cœur. Donc, Seigneur, nous prions pour les membres de notre famille, les personnes que tu as mis à cœur maintenant. Père, merci pour ta grâce dans leur vie. Merci, Seigneur. Oh, pour une ouverture pour l'évangile. Merci, Seigneur. Tu sais qui peut leur parler. Et nous prions, maître de la moisson, on voit des ouvriers dans cette moisson. Merci, Seigneur, que leur cœur devienne bien disposé à l'évangile. Merci, Seigneur. Oh, pour ta bonté envers ma famille. Seigneur, je te loue pour leur salut. Je te remercie pour chacun d'eux. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Hallelujah.